Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehoux, en compagnie de Angélique Charot.
Bonjour.
Et de Robert Rivard.
Bonjour.
Nous sommes à Montréal, dans les studios de Radio Centre-Ville, et notre thème aujourd'hui sera « Ce que je suis parle plus fort que ce que je dis ». C'est inspiré d'une citation de Ralph Waldo Emerson qui disait plutôt « Tes actes parlent si fort que je n'entends pas ce que tu dis ». Mais bon, pour moi, ça revient un peu au même, c'est-à-dire que il y a des gens qui parlent beaucoup, mais en réalité, dans les faits, on voit bien qu'ils ne font rien ou qu'ils ne font pas ce qu'ils disent. Et c'est un peu décevant. C'est de ça qu'on aimerait parler aujourd'hui. De quoi avez-vous réfléchi à ce propos?
Alors, moi, je reviens à la phrase de la question clé. Ce que je suis, donc je pense être, parle plus fort que ce que je dis, donc je pense parole ou action. Même, on pourrait dire. Donc, dans une certaine mesure, est-ce que l'être peut à son tour être défini vraiment? C'est une question que je me pose. Et donc, être, est-ce que c'est quelque chose qui se définit? Est-ce que ça vraiment peut être défini comme tel? Si oui, donc nos paroles, si ça ne peut pas être défini, si on ne peut pas vraiment définir l'être comme quelque chose de spécifique, de contourné, de défini, alors, nos paroles encore moins et nos actions relativement parlant, peut-être en partie, mais pas en totalité.
Mais c'est sûr que l'être, c'est un thème qui est quand même complexe. Tous les grands philosophes ont parlé de ce sujet, ils ont tous leur propre définition. Pour moi, l'être, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Dieu des chrétiens, qui est un Dieu transcendantal, quelque chose à l'extérieur de moi. Ce n'est pas l'inconscient, ce n'est pas non plus l'âme. Bon, l'âme est un concept qui vient de la religion, qui est un concept dualiste. Pour moi, c'est, l'être, et c'est plus moi-même que moi-même. C'est quand je me laisse être, c'est là que je suis exactement ce que je me suis donné à être. Et c'est quand je commence à penser un peu trop que là, je peux un peu diverger le mental. Des fois, on va parler du mental qui vient se mettre entre l'être et la personne.
Mais est-ce qu'on peut vraiment dire définir un être si on part du principe qu'on est tous uniques? Est-ce qu'on peut vraiment donner une seule signification, une seule définition, et ensuite ne pas respecter ce que l'on dit ou les actions? On peut aussi mettre on peut mettre aussi le compte sur la perception des choses. Mmh. Comment l'autre, mon voisin, va entendre ce que j'ai à dire? Comment il va percevoir ce que je suis en train de faire? Il y a aussi toute cette dimension, peut-être, où tu sais, ça peut
être plus compliqué. Il faut définir c'est quoi un être, mais je pense que c'est à chaque personne de définir ce qu'est. Et si la personne ne comprend pas, elle peut s'interroger, elle peut regarder ce que les grands philosophes ont pensé.
De façon personnelle, tu veux dire.
Ouais.
Oui,
savoir qui je suis, moi, pour pouvoir faire mes actions à moi.
Parce qu'il y a un courant maintenant qui parle du « je suis ». Il y a des grands maîtres qui parlent du « je suis ». Jésus a déjà dit, a parlé du « je suis ». Le Dieu, même, dans l'Ancien Testament, disait « avant qu'Abraham soit, je suis ». Donc, être, c'est quelque chose qui, est, à mon avis, est hors du temps et de l'espace. Ça n'a rien à voir avec la réalité physique en trois dimensions. C'est quelque chose qui est un facteur inconnu, un facteur de permanence en moi. Ce que je pourrais pas dire en nous, parce que la majorité des gens, à mon avis, n'ont pas d'être sur la Terre. Ils sont vraiment des coquilles vides.
Oui, et tu mets en lumière quelque chose, c'est que le langage qui est très relatif et qui, mis à part moi, d'une description, peut-être mathématique, tu sais, par exemple, Oui, un 2 par 4 de 8 pieds de long, là, tu sais, quelque chose de très spécifique qu'on peut échanger dans un dialogue. C'est très difficile d'avoir la même référence et il y a beaucoup de risques d'ambiguïté. Mais quand même, dans la mesure du possible, parce que d'écrire quelque chose, c'est de séparer quelque chose pour moi. Donc, il y a toujours ce prix à payer dans l'exercice de définir ces choses-là. Mais... il faut avoir quand même une base de dialogue, il faut quand même communiquer ou communier, dépendant de la situation. Dans ce sens-là, oui, c'est plus fort que... Et les actions, donc, pour moi, en fin de compte, je pourrais faire un bilan rapide de tout ça. Ce que l'on fait dans nos actions, dans le sens choix de travail ou d'activité, est une chose, peut être un reflet de qu'est-ce qui est proche de nos goûts, de nos affinités, de notre passé génétique, ancestral ou quoi que ce soit, si on le regarde comme ça. Mais ça demeure quand même, je crois, un grain de sel par rapport à l'être comme tel. Donc, ça n'a pas autant de...
Mais je pense qu'on pourrait dire aussi, pour simplifier, on pourrait dire ce que tu fais. Parle plus que ce que tu dis, tes actions.
OK, fait que là, tu ramènes...
Te dessine un petit peu plus.
Je veux dire, on ouvre le débat, là, parce que c'est sûr qu'on peut le ramener juste à l'être, qui est extrêmement complexe, et plus que la majorité des gens n'ont pas d'être. Oui. Ils ne comprendront pas nécessairement.
Oui.
Mais si on... Je veux dire, on peut aussi parler au premier niveau. Par exemple, dans le conseil d'administration sur lequel je fais partie, le mouvement jovialiste, j'avais quelqu'un qui voulait participer. C'était une grande gueule. Le gars, il parlait beaucoup. Il m'avait dit, je veux faire ci, je veux faire ça. On en avait parlé au conseil d'administration. On l'avait invité. Il ne s'est jamais présenté. Mmh. Alors que c'est sûr que les fois qu'il est revenu me voir, qu'il me dit, ah, on pourrait faire ça. Pour moi, il n'est pas crédible.
Oui.
C'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui ne fait pas ce qu'il dit. Donc,
ça, c'est vraiment dans la dynamique d'un peu tous les jours et un peu pour tout le monde, je pense, de faire affaire avec des gens où il faut toujours se mettre un plan B pour justement prévoir ce genre d'incident ou ce genre de fait que la personne ne va pas être au rendez-vous, ne va pas faire ce qu'il avait soi-disant l'intention de faire. Donc, dans cette dynamique, on parlait de communication tout à l'heure, Robert, j'ai bien aimé ce que tu as dit, mais comment communique-t-on déjà avec soi-même?
Ben, je pense pas que c'est une... Ben, pour moi, si j'aurais une méthode, puis, il n'y a pas de règle, mais si je dois en donner une, je dirais par le biais de la méditation, pour moi, c'est une clé efficace et qui a montré sa preuve d'année en année.
Mais est-ce que ça va t'emmener réellement, tu crois, vers la bonne action quand même?
Ah, OK. Est-ce que méditer, me rapprocher de mon être va me donner un parcours à suivre pour prendre action?
Est-ce que tu serais assez sûr de savoir qui tu es pour faire la bonne action?
La bonne action.
Parce que si dans ce cas-là, on doit respecter qu'est-ce que l'on dit, donc comment on se parle à l'intérieur, puis qu'est-ce que ça doit apporter. Ouais. Est-ce que tout le chemin qui se fait entre-temps va vraiment amener le résultat escompté?
Ou bonne action, on peut dire être au bon endroit au bon moment.
Exactement. Oui, parce que sans ça, on s'en va dans une discussion de garantie. Est-ce que cette action va me garantir un résultat quelconque? Puis je pense pas qu'on peut vraiment
garantir ou une satisfaction.
Moi, j'aime bien le terme action juste.
Action juste.
La justesse, pour moi, ça n'implique pas le bien, le mal qui semble te titiller un peu.
Oui, c'est ça, parce que là, c'est sujet à des couches et des couches d'interprétation. Mais il y a quelque chose à dire sur le moment présent, l'action appropriée du moment présent. Donc, dans ce sens-là, tu utilises tout ce que tu es, puis tu prends action en conséquence et tu y vas avec ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
C'était un partage, surtout que je voulais avec toi, mais c'est correct, c'est correct.
Tantôt, on parlait de... Bon, ce que je suis parle plus fort ce que j'ai dit, puis là, on a amené ça aux actions. Donc, juste le bilan actif d'action, c'est-à-dire prise, est une bonne chose. Je pense que les actions créent fortement la réalité subjective, relative. Mais encore là, ce n'est qu'un volet. Tout à l'heure, c'est intéressant, j'étais au café et puis j'ai engagé une jeune étudiante du nom de Amy. Alors, si tu entends ça, Amy, je te salue. Et elle m'a inspiré dans le discours. On parlait de qu'est-ce qu'on est. Puis, tu viens de mentionner quelque chose tantôt, Nicolas, que très peu de gens prennent le temps de réfléchir. Très peu de gens prennent le temps de se donner un temps de réflexion pour se poser ces questions-là. Qu'est-ce que je suis? Est-ce que je me définis? Puis j'essayais avec elle d'avoir son opinion sur des définitions de qu'est-ce que c'est être. Et une inspiration qui m'est venue, c'est qu'on parlait à un moment donné de mémoire. Et puis il y a des gens qui se définissent par leur mémoire, par leur vécu, par la totalité de qu'est-ce qu'ils ont dans le passé. Et encore là, d'après moi, c'est travailler par le mental et juste revivre ou rejouer, c'est-à-dire un ancien film ou un film déjà passé. Et puis, je trouvais ça intéressant parce que c'est peut-être ça, des fois, la trappe pour mais certaines
gens. Ouais. Mm. Il faut voir, encore là, ça revient à c'est quoi la définition de l'être. Par exemple, si Jean-Paul Sartre parle de l'être, qui lui est un matérialiste. Alors que lui, pour lui, c'était fini. Mm-hmm. Alors, c'est sûr que sa définition va être très différente de la mienne. Ouais. Pour lui, il n'y avait rien après, rien avant. C'était un athée. Et pour moi, si je te dis que l'être est le facteur de permanence en moi, ça rentre complètement. Mais il y a probablement raison pour lui. Et c'est ça que moi, j'avais compris aussi quand j'étudiais beaucoup. C'est que, par exemple, le mot « Dieu », il y a à peu près 12 définitions sur la planète. Puis certaines sont contraires l'une de l'autre, mais ils sont tous vrais. Ils sont vrais pour toi. Donc, si toi, tu as un système de croyance, je pense qu'il faut l'assumer. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire, l'être? Moi, j'ai porté une réflexion, mais je sais c'est quoi. Je sais que je me suis donné un être. Mm-hmm. Je le sens dans ma vie. Il y a un facteur inconnu que les gens n'arrivent pas à comprendre, qui s'installe quand j'entre quelque part. Et c'est quelque chose qui est plus moi-même que moi-même, sur lequel je peux compter quand j'ai des vraies questions. Quand j'ai des vraies questions, moi, je me pose ces questions. Je ne vais pas voir nécessairement un médium. Mm-hmm. Je suis ce médium que je peux questionner. Et je le fais par mon œuvre, par un paquet d'autres manières, l'écriture, etc., par les rêves. Mais on va faire une petite pause musicale avec la première chronique d'Angélique. Hein, on veut vous offrir un peu plus de matériel pour réfléchir, donc ça donne bien, Angélique est dans l'émission aujourd'hui. Alors, on vous laisse sur la chronique d'Angélique, puis on revient après la pause avec ce thème « Ce que je suis parle plus fort que ce que je dis ». I would not. I feel good. I knew that I would not.
Bienvenue, je m'appelle Angélique Charot, je suis hypnothérapeute et coach en préparation mentale. Dans mes chroniques, je propose des petits exercices sous forme de jeu pour se ressourcer, se permettre de retrouver une bonne vibration, du calme et également augmenter votre bonne énergie. L'objectif étant de se réaliser. Lors de discussions à propos de mon travail ou lors des consultations, on me pose souvent des questions au sujet du bonheur. Alors j'ai décidé de partager avec vous des techniques simples, rapides et amusantes pour pallier à des problématiques de tous les jours. Les résultats vous surprendront et vous pourrez signer vos efforts d'un petit bonhomme sourire. Tout le monde peut y jouer. Aujourd'hui, c'est Monsieur Lambert qui demande « Que me proposes-tu pour réanimer la flamme de ma motivation ? Mon moral n'est pas au rendez-vous. » Alors, comme Monsieur Lambert, je vous invite à prendre une feuille, un stylo et une paire de dés. Amusez-vous à ne faire que l'essentiel proposé dans cet exercice. Dites-vous que pendant un instant, vous partez en voyage. Alors, vous avez votre feuille de route pour vous indiquer le meilleur chemin à suivre et noter les choses les plus importantes. À travers ce voyage, vous allez découvrir des choses et revenir avec un cadeau. Il suffit tout simplement d'écrire ou de dessiner sur votre feuille les réponses aux quatre questions que je vais vous poser. Écoutez votre cœur, posez vos réponses de façon spontanée, celles prises sur l'instant. Elles peuvent apparaître en images, en mots, en symboles ou autre chose. Simplement posez-les sur votre papier. Maintenant, à chaque fois que je prononcerai les nombres 1, 2, 3 et 4, ce sera le moment pour vous de lancer les dés. Vous aurez un temps relativement court de 3 secondes pour répondre à chacune des questions. Cela va vous aider à vous plonger en vous-même et éloigner les réflexions futiles qui nuiraient à votre amusement. Allons-y. 1. Quel est mon ressenti là, dans l'inconnu ? 2. De quelle façon mon voyage se déroule ? 3. À quelle couleur je pense maintenant ? 4. Quel cadeau je rapporte ? À cet instant, sentez à ce qui vous ferait le plus plaisir. Posez votre stylo retournez votre feuille. Vous pouvez poursuivre ou reprendre cet exercice un autre jour et même écrire l'histoire de votre voyage, l'enregistrer, la réinventer au besoin. C'est sans limite. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, déposez-moi ou postez-moi vos questions au sujet d'une problématique sur www.proposurlebonheur.com où vous pourrez également reprendre cette session et y trouver également mes coordonnées. À bientôt.
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Ce que je suis parle plus fort que ce que je dis ». Une autre citation là, que j'aimerais dire ici, de Lao Tzu, qui ressemble beaucoup à ça. Lui disait « Celui qui parle ne sait pas, celui qui sait ne parle pas ». Il y a des gens très sages, et souvent les gens extrêmement sages ne parlent pas beaucoup. C'est des gens qui sont assis dans leur coin, qui attendent que les gens viennent à eux, ils vont répondre aux questions quand les gens leur posent. Mais aujourd'hui, il y a une vague là, de motivateurs, là, de gens là, qui se prennent pour des dieux et qui vont parler, qui vont faire des vidéos sur YouTube, etc., qui vont nous imposer leur manière d'être, mais qui n'existent pas vraiment. Moi, je ne leur donne pas beaucoup d'être, en tout cas, pour la majorité d'entre eux, mais c'est ce qui pogne. Il y a comme une vague de gens là, qui vont dire des choses qui sont déjà tout cuits. Et c'est ça le problème, à mon avis. Un peu comme la mère oiseau qui va te régurgiter. Alors, pour les gens, c'est comme... c'est facile. Mais en fait, ça mène pratiquement nulle part.
Moi, il y a un petit côté où je ne suis pas d'accord avec toi, Nicolas, quand même. C'est que la communication ou le fait de comment passer un message au jour d'aujourd'hui, YouTube, Facebook, etc., ça reste quand même... ça reste tellement on peut tellement tout faire à travers ça au jour d'aujourd'hui. Il y en a aussi qui l'utilisent d'une bonne façon. C'est-à-dire être un sage, attendre que la personne vienne vers soi. Qui fait ça au jour d'aujourd'hui? Qui prend réellement le temps d'aller dire je vais me prendre un moment à moi, aller voir un sage quelque part parce qu'il est là, il attend en silence et que c'est la meilleure chose à faire. Au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui savent très bien passer les messages à travers ça, puis c'est bien parce qu'il faut que aussi l'être humain soit informé. L'information passe par ça, comme il peut passer autrement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas l'exclure.
C'est très intéressant ça, parce que ça fait penser en ce moment à deux possibilités, tu sais, où on compare deux choses. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui cherche à aller voir un motivateur à succès, genre Tony Robbins, par exemple, pour s'aider dans la vie, versus une autre personne qui cherche à aller voir le gourou en haut de la montagne, au Tibet, pour aller s'imprégner de sa sagesse? Quelles sont les différentes motivations? Elles sont très différentes. Hein? Puis si je répondrais à ma question en disant ça, là, parce que j'avais une idée en tête, c'est que je vois que dans un sens, les gens qui vont aller voir Tony Robbins et tout ça sont souvent plus soucieux d'un succès matériel, monétaire et physique. Et c'est ça qu'on cherche. T'sais. On voit que souvent notre bonheur va se résoudre à quelque chose de matériel. Tandis que celui qui va aller voir le gourou, il est probablement à la recherche d'une autre question que ça.
Oui. Mais tu sais, Angélique, selon moi, les choses n'ont pas vraiment changé depuis des milliers d'années. Hein. Les gens sont aussi superficiels. Les gens qui voulaient vraiment la vérité allaient vers des grands maîtres qui n'avaient pas plus que 12 disciples et ça n'a pas changé. Moi, par exemple, c'est des grands motivateurs, j'entre aussi le Dalai Lama. Je veux dire, il remplit des stades au complet, mais c'est tellement régurgité qu'il dit rien. Je suis allé le voir une fois, j'ai une amie qui m'a emmené. J'étais ouvert, je suis ouvert. Je reconnais que c'est un saint. Mais ce qu'il dit, c'est du remâché, il dit rien de nouveau. Moi, je préfère un maître qui a pratiquement personne autour de lui. Pour moi, c'est un vrai signe. Et ces gens-là, ils vont pas parler beaucoup, mais ils peuvent parler beaucoup quand tu es là, ils vont répondre. Mais il faut faire la part des choses. Je veux dire, il y a une différence entre quelqu'un qui ne parle pas du tout, qui est autiste, et la personne qui va parler moins. C'est juste qu'en général, je trouve que les gens qui parlent beaucoup, c'est souvent ceux qui n'ont rien à dire.
Ça me fait penser. Ils l'ont pris des autres, mais ça, c'est encore un autre débat.
Puis ceux qui sont sont un peu plus effacés, un peu plus... tu sais, moi, j'ai toujours été un peu gêné, un peu dans mon coin. Mais quand on me pose des questions, j'ai souvent des réponses incroyables qui vont me sortir, mais que j'ai appris, moi, à ne pas imposer. parce que j'ai eu des groupes de discussion et à un moment donné, je donnais des conseils parce que je me trouvais intelligent, je trouvais que j'avais des choses que je pouvais dire, mais je me suis rendu compte que si tu dis quelque chose à quelqu'un qui ne t'a pas posé une question, mm-hmm. il ne t'écoute pas.
Exact.
Ça passe. Fait que, tu sais, c'est juste pour t'entendre. Puis moi, j'ai passé ce stade. Tu sais, je ne veux pas parler juste pour m'entendre parce que j'aime ma voix. Tu sais, je veux mm-hmm. parler à quelqu'un qui m'écoute. Et ça, c'est rare.
Ben, tu sais, le vieux principe que tu as deux oreilles puis tu as une bouche, donc tu devrais t'en servir deux fois plus pour écouter que pour émettre quelque chose.
J'ai jamais entendu ça.
Cette proportion-là, je la garde moi toujours en tête comme clé. Donc, j'aime ça écouter plus que qu'exprimer parce que j'apprends. Et puis, l'autre analogie avec ça, quand tu parlais du sage tantôt qui est tranquille et puis qui est plein ou qui est en paix. Ça fait penser du concept, je ne sais pas si ça vient de là-dessous ça également, mais du concept de la tasse vide et de la tasse pleine, où ce que les gens qui parlent tout le temps me font penser à des tasses pleines. T'sais, quand ils parlent tout le temps, il y a des gens qui font ça parce qu'ils sont nerveux en compagnie d'autres ou quoi que ce soit, ils ne peuvent pas être en paix, ils ne peuvent pas être jouer ça au téléphone des fois, des gens ne peuvent pas arrêter de parler, ça n'arrête pas, ils ne respectent pas dans leurs pensées. Enfin bref, c'est ça, leur tasse est tellement pleine que tu peux pas rien mettre dedans, il y a pas de place, tu sais, pour mettre quelque chose, la tasse est pleine.
Ouais.
Donc et puis l'autre côté de ça, c'est justement quand tu es plein vraiment de ton être, si on vient à l'être, il n'y a pas grand-chose à ajouter.
Mais si c'est trop plein, tu sais, si on parle aujourd'hui, ce que je suis parle plus fort que ce que je dis. Mm-hmm. Y a aussi le concept de prendre l'apprentissage. Ça s'apprend de pouvoir vider une tasse et de la remplir à nouveau ou tout simplement de s'équilibrer au fur et à mesure.
Absolument, c'est des beaux mots, ça, qu'est-ce que tu viens de dire. Ça s'apprend, oui.
Tu sais, un autre exemple, bon, c'est vraiment de premier niveau, là, mais par exemple, vous avez remarqué, les gros chiens, là, ça n'a pas besoin de japper. Ça a une présence. T'sais. Ils le savent charisme. Qu'ils sont gros. Alors que les petits chiens qui vont japper, qui vont essayer de te mordre. T'sais, dans la vie, c'est un peu ça, je trouve. Tu as des gens qui vont japper fort, qui vont dire beaucoup de choses, mais c'est parce qu'ils veulent compenser pour quelque chose qu'ils n'ont pas. Alors que celui qui s'est donné un être, il a une assurance. Moi, on peut me dire qu'est-ce qu'on veut sur mon œuvre, par exemple, sur mes livres. Je vais rester ouvert et je vais écouter la personne. Mais en même temps, ça va pas changer ma manière de voir mon œuvre et de la créer. Parce que je me suis donné un être et puis c'est quand je crée que mon être est le plus fort. Moi, quand je fais de la musique, par exemple, je sens mon être d'une force incroyable et je vais faire des choses des fois qui m'impressionnent, moi, en tant que personne. Mais c'est parce que je me mets à l'écoute de mon être. Certains vous, qui sont des transcendantalistes pourront parler, par exemple, de canalisation. Mais moi, je ne canalise pas. Je ne suis pas un canal. Je ne suis pas juste un canal qui permet à quelqu'un d'autre. Moi, quand je parle, c'est moi qui parle. C'est ça la différence. Je suis. Et Nisargadatta Maharaj, qui a écrit un livre qui s'appelle « Je suis », c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas beaucoup aujourd'hui. Ils ne sont pas. T'es comme le être et avoir. Mm-hmm. Les gens ont de l'avoir, ils vont se donner de l'avoir, ils se jettent dans la matière, c'est une fuite folle vers l'avant. Mais ils oublient l'être. Quand tu meurs, tu peux être millionnaire, tu peux avoir 50 femmes, 50 maisons, ils vont pas te suivre.
Mais c'est une question peut-être de mots, de choix de mots, comment les gens reçoivent l'impact de certains mots. Tout simplement, quand tu disais tout à l'heure, je sais plus de quoi tu parles.
Tu parles de mémoire?
Oui, exactement. Tu sais, quand on... Les mots qu'on peut utiliser, on utilise souvent le passé, le cercle vicieux, etc. Donc là aussi, tu peux avoir... si tu crées tes actions et tes pensées autour de ça, tu restes dans une dimension passée. Donc, le présent n'existe pas et le futur, sur quoi il va se créer. Donc, mais pour cette personne, ce que je fais et ce que je dis est concret. Même si une vue extérieure... pourrait trouver ça complètement désordonné.
Oui.
Donc l'impact des mots que l'on se dit, des informations que l'on prend, et je te rejoins aussi sur la personne qui va aller voir le sage sur la montagne ou le célèbre américain. Je pense que c'est là aussi, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont aller voir ce monsieur américain très célèbre, mm-hmm. parce qu'il y aura certains mots qu'ils auront touchés. Mais ça ne voudra pas dire forcément qu'ils sont dans le matériel. Et peut-être qu'il a suffisamment de talent pour pouvoir utiliser aussi des mots qui touchent ou qui vont chercher le plus de gens possible. Ça n'empêche pas que cette personne est tout à fait aussi capable de se recentrer sur elle-même et d'aller voir un sage en haut de la montagne.
Ben oui, et puis je veux pas non plus mettre dans la poubelle tout ce qui est le travail des motivateurs, puis tout ça, là. En tout cas, ça a été mon expérience que vraiment, ce que j'ai observé, c'était vraiment dans un but matériel. Et en fin de compte, il faut commencer à quelque part. Même si c'est un but matériel, des fois, c'est rien là, comparativement à quelqu'un d'autre qui a fait un autre parcours. C'est aussi bien de commencer là et puis après ça, voir jusqu'à temps que tu t'aperçois à un moment donné que le matériel, tu peux en avoir autant. Puis comme tu as dit tantôt, quand tu vas quitter les pieds, tes pieds vont lever, tu vas pas avoir ça avec toi. Là. Tu l'emporteras pas au paradis, comme on dit.
Eh bien, on va faire une pause musicale avec une chanson de Lindsay Sterling qui s'appelle « Crystallize ». Puis on revient après la pause avec ce thème « Ce que je suis parle plus fort que ce que je dis ». De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Ce que je suis parle plus fort que ce que je dis ». Moi, il y a un exemple que je peux donner, il y a un exemple très connu, c'est Gandhi. Gandhi disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Et lui, il ne faisait pas simplement parler, il l'a démontré dans sa vie, il faisait son linge, il a renoncé à beaucoup de choses, il s'est consacré à son être. Et ça, je trouve ça beau, parce que c'est quelqu'un qui est à la hauteur de ce qu'il dit. Contrairement à beaucoup d'autres gens qui, devant les médias, vont dire quelque chose, mais derrière, ils font l'inverse. C'est l'exemple de beaucoup de politiciens, par exemple, qui vont passer des lois, ils vont nous taxer, ils vont faire des lois pour obliger à payer des impôts, alors que eux, dès qu'ils ont créé cette loi, ils se retournent et font le contraire. Ils envoient leur argent dans des paradis fiscaux, il y a eu des reportages sur le sujet, et c'est vraiment intéressant de voir que ce sont des menteurs abjects et qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils disent. Et ça, c'est clair au niveau des politiciens, mais pour les gens de l'Église aussi, hein, beaucoup de gens vont dire quelque chose, des membres de l'Église à travers le temps ont parlé, mais qu'ils n'ont, dans leur vie, ils n'avaient peut-être pas la foi telle qu'ils le disaient ou qu'ils l'exigeaient de leurs ouailles.
C'est sûr que quand la manière que tu l'expliques à grand déploiement comme ça, ou à l'écran de la télévision, ou dans des mouvements historiques, comme dans le cas de Gandhi, c'est clair à voir. À l'échelle du quotidien, la personne de tout le monde, je vais dire, pour moi, il y a plusieurs niveaux de supercherie ou d'écran de fumée qui existent. Je crois qu'il y en a une qui est du niveau génétique déjà en partant. Et bien sûr, il y en a une au niveau de tout ce qui est relatif. L'être humain moyen a beaucoup à combattre pour retrouver son être. C'est pas évident. C'est pas, ça saute pas aux yeux. Puis c'est facile de se laisser aller aux tendances, aux annonces, aux modes, à ce qui est populaire. On avait parlé il y a quelques émissions d'un test ou d'une expérience où ce que les gens changeaient d'opinion, même devant une évidence du contraire. Juste à cause que les gens alentour d'eux disent une certaine chose, ils vont se rallier à cette opinion, même si elle est en erreur.
Est-ce que c'est parce que ce serait facile? Est-ce que c'est plus facile justement de se laisser bercer dans ça?
Parce que l'être humain est doté d'un mental, d'un mécanisme de réflexion qui est sujet à des émotions, à des pressions psychologiques qui peuvent l'amener à céder ou à se compromettre. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas notre histoire à nous autres, c'est pas tout cuit dans le bec. Pour te donner un aide, Nicolas, il a fallu quand même que tu fasses des démarches. Il a fallu quand même que tu mettes ton pied à terre. Il a fallu que tu maintiennes une position. Il faut que tu fasses certaines choses ou ne pas faire certaines choses.
Il faut être prêt à tout perdre. En tout cas, pour moi, l'être... une fois que tu as un être, c'est drôle parce que tu perds tout. La majorité de ce que tu croyais être n'était qu'une illusion. Et puis, les gens qui tu croyais tes amis, finalement, s'en vont. Et je me suis vraiment retrouvé dans un néant incroyable où j'aurais pu me perdre. Mais moi, je l'ai surmonté dans la joie, ce néant. J'étais un homme heureux, comme je suis présentement. Donc, j'avais un grand bonheur mais que j'ai pu exprimer dans mon œuvre. Moi, ce qui m'a sauvé, ce qui m'a aidé à me donner un être, c'est mon œuvre. J'ai fait des séries de peintures qui m'ont aidé à amener, justement, à comprendre c'est quoi l'être. Je me suis rendu compte que c'est difficile de savoir qui on est parce que la personne, c'est personne, c'est rien. Donc, comment tu fais pour te connaître? Tu regardes les gens autour de toi. Moi, j'ai pris les 12 personnes autour de moi les plus proches. Je les ai tous étudiées pendant un an. J'ai fait une peinture hyper réaliste de chacune de ces personnes-là. Et c'est en même temps un processus qui m'a permis de les sortir de moi. Et puis, le dernier, c'était moi. Et je me suis sorti moi-même de moi-même. Et là, je suis tombé dans le néant. Et c'est là que je me suis donné un être. J'ai eu des expériences mystiques assez fortes, dont une qui m'a amené à rentrer dans mon centre, comme dans le fond d'un puits, là, et ça a remonté. Peut-être qu'on pourrait décrire ça comme la montée du Kundalini, mais je ne suis pas hindouisant, donc moi, je ne sais pas comme ça que je le décrirais. Là. Oui, tu voudrais dire quelque chose,
Angélique? Non, c'était juste pour préciser que... Oui, je voulais souligner, je trouve ça très beau ce que tu as dit, mais beaucoup de choses que j'aurais voulu souligner. Je vais en prendre une pour se définir. Comme tu disais, j'ai perdu mes amis, etc. Je pense que quand on fait un passage à 180 degrés, on découvre aussi sa propre force de caractère pour se définir. Une force de caractère pour faire tout ce chemin et arriver peut-être à un endroit ou à un moment où on ne pensait pas et qu'on est passé par toute cette palette de changements. Au bout du compte, est-ce que ça appartiendrait pas aussi à la force de chacun? Toi, tu es capable de le faire, peut-être moi je suis capable de le faire, Robert aussi, d'autres pas.
La majorité n'est pas prête à le faire, c'est évident, elle est dans la matière.
D'où tout à l'heure, c'est pour ça que je demandais à Robert, est-ce que tu penses que c'est justement parce que la majorité préférerait prendre la chose facile, ou prendre les choses de la direction la plus facile, même sans s'écouter, même si effectivement ça serait comme meilleur à côté, mais c'est tellement plus facile de ne pas changer de voie aussi radicalement. Tout le monde n'est pas capable de prendre des chocs. Il y en a, je parle vraiment de chocs parce qu'il y en a, c'est vraiment ça qu'ils vivent. Moi, ça m'arrive de recevoir des patients comme ça où le moindre petit changement est un choc et il faut aussi respecter ça. Tout le monde a un chemin à prendre, des choses à faire, mais à un rythme unique. Et la force de caractère, quand on est capable, je pense, de passer d'un point A à un point B à la grande vitesse, de se réveiller un matin en disant, OK, table rase, et je recommence tout, et peu importe qu'est-ce qui va pouvoir se passer, je suis en totale acceptation que mon cercle d'amis change complètement, que je me retrouve même seule à un moment donné, mais que je continue d'avancer parce que quelque part, il y a quelque chose qui existe ou qui grandit et qui montre justement la bonne façon de faire les bonnes actions et qui me représente de plus en plus.
Je n'irai pas jusqu'à dire que je respecte ceux qui ne se donnent pas d'être. Là. Je crois, moi, je n'ai pas de respect vraiment pour ces gens-là, mais par contre, je les comprends. Je pense que la compréhension est plus forte. Moi, ce que je reproche peut-être à l'Église, aux chrétiens, c'est le pardon. Tu sais. Moi, je ne pardonne pas. Par contre, je comprends. Que comprendre, ça veut dire prendre avec soi. Et pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que pardonner. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que quand on pardonne à quelqu'un, il va se donner le droit de le refaire après. Il t'a marché sur le pied une fois, il va le refaire, tu lui as pardonné. Si tu ne lui pardonnes pas, c'est une menace, d'une certaine manière, parce que tu lui dis « je n'oublierai jamais ce que tu as fait ». Un peu comme les Anonymous qui vont dire « je... »«
Never forget », ouais, c'est ça.
« Je n'oublie pas
ouais. ».
Mais eux autres, ils parlent d'attaquer, par contre. Ils disent « redoutez-nous ». Mais moi, je ne veux pas attaquer non plus. Donc, je dis plutôt « je ne vais pas jamais te pardonner ce que tu m'as fait, mais je vais le comprendre. Et si je le comprends, moi, je suis en paix. Mm-hmm. » Et donc, il n'y a pas besoin de pardon. On pardonne à quelqu'un qui nous a offensés. Mm-hmm. Mais s'il n'y a pas eu d'offense, moi, je suis plutôt à ce niveau, au niveau de la compréhension.
Je pense que le pardon, si on parle du pardon maintenant, on vient de changer de sujet un petit peu, mais je voulais juste faire une remarque là-dessus qui est intéressante. Ben, en tout cas,
qu'on reste dans le bonheur, on est dans le sujet. Ah,
que... Oui, parce que moi, je la trouve intéressante, en tout cas, peut-être parce qu'elle vient de moi, puis je me trouve intéressant. Mais ce que je remarque, c'est que le pardon, ça a plusieurs dimensions. Une, que des fois, pardonner, juste le fait de dire pardonner, tu réanimes la vibration de l'événement, tu rejoues l'événement. Je te pardonne cette méchante chose que tu m'as faite un jour, tu sais, là. Donc, tu trouves des fois à revivre l'émotion sur le coup, puis en réalité, tu pardonnes pas parce que tu la vis encore. T'as encore une émotion, une charge émotive là-dessus. L'autre affaire, c'est que le pardon est important dans le sens que tu veux pas avoir des occupants dans ton logement qui payent pas leur loyer, tu sais, dans ta tête. T'sais. Tu veux pas avoir des gens qui sont là puis qui payent pas de loyer puis qui prennent de la place pour rien. Dans ce sens-là, le pardon est important ou faire une démarche qui amène à libérer ces choses qui prennent de l'activité mentale puis l'énergie mentale.
Mais ça donne rien, justement, le pardon. Si tu analyses le mot pardonner, ouais. Tantôt je parlais que quand on dit quelque chose à quelqu'un qui t'a pas posé de questions, il ne reçoit pas. Et c'est la même chose, le pardon. C'est, tu donnes un pardon. Mais si la personne, elle-même, elle n'a pas fait le processus, ça ne change rien. Elle va quand même être dans ta tête. Et moi, étant très télépathique, je peux sentir n'importe qui est là, bon ou mauvais. Mais en les comprenant, moi, je suis en paix. Je comprends pourquoi une personne m'a fait tel coup ou telle femme m'a laissé. T'sais. Si je le comprends, je n'ai aucun problème. Il m'est arrivé, par exemple, d'avoir un moment donné où j'avais une douleur incroyable. J'étais plus capable de rien faire. Mais au même moment, je recevais de la connaissance et je comprenais pourquoi. Et ça, même si au niveau physique, j'avais une douleur complètement hallucinante là, qui m'empêchait de faire quoi que ce soit, je n'en souffrais pas parce que je comprenais pourquoi. Au niveau les plus subtils de la réalité, qu'est-ce que c'était la signification? Donc pour moi, la compréhension est quelque chose de beaucoup plus profond. Mmh. Et c'est ça pour moi qu'on entre dans une nouvelle ère de l'humanité où le pardon, moi je suggère, arrêtez de pardonner. Ne pardonnez pas à ceux qui vous ont fait des choses parce que vous agissez en victime. C'est l'Église qui nous a appris à pardonner. Ça vient de où ça? Ça vient de l'Église.
Moi, c'est appelle ça comme tu veux, mais c'est l'idée de ne pas être badri par ces événements passés. Et d'avoir à revivre ces événements passés. Fait qu'appelle le processus comme tu veux. Si on appelle ça pardon, c'est pardon. Si on appelle ça autre chose, oublier, c'est
compréhension.
Compréhension. C'est comme tu veux. Parce que revivre le passé, c'est comme on dirait être dans un tunnel au ralenti, en suspension. Tu revis des choses, puis tu n'avances pas parce que tu es comme au ralenti. Puis là, je fais des gesticulations au ralenti quand je dis ça.
C'est beau.
Pour exprimer ça, c'est comme tu revis un passé. Le temps arrête, c'est ça l'affaire. Le temps arrête et puis tu ne progresses pas quand tu vis dans le passé comme ça, puis quand tu vis une animosité comme ça.
Et, ton temps à toi arrête, mais le temps, lui, il continue.
Oui, mais ton temps à toi, c'est celui qui est le plus important.
Mais essaye, la prochaine fois que quelqu'un va faire quelque chose qui te dérange, au lieu de lui dire « je te pardonne », dis-lui « je te comprends ». Et la personne, en se sentant comprise, elle va te calmer, elle va dire « ah, enfin, quelqu'un me comprend. J'ai été battu quand j'étais jeune, j'ai été violé quand j'étais jeune, je peux pas m'empêcher de faire la même chose. Mm-hmm. » Tu sais, c'est pas moi, là. Mais je veux dire, quelqu'un, souvent, les problèmes qu'on a dans notre vie, c'est des problèmes qu'on garde de notre enfance ou pour les plus sensibles de vie parallèle ou de réincarnation, dépendamment de la croyance. Mm-hmm. Donc, pour moi, la compréhension, ça englobe. C'est que je prends avec moi. Donc, mm-hmm. je prends cette personne, je te dis, je te comprends. Et on a tellement besoin de compréhension. Tu sais, moi, je ne me sens pas très, très compris dans le monde présent. Je vais dire des choses que les gens ne comprennent pas. Par exemple, on parle de l'être. La majorité des gens ne comprendront pas. Les gens qui écoutent l'émission, à mon avis, vont probablement comprendre parce qu'ils s'intéressent à ces sujets. Mm-hmm. Il faut déjà s'intéresser à la conscience, avoir peut-être posé ces questions pour réaliser que c'est quoi un être ou tout au moins se donner la définition.
Ou éviter des pièges, des choses, des illusions. Il y a tellement de choses qui parsèment notre chemin.
Mais on revient après la pause avec le même thème. Ce que je suis parle plus fort que ce que je dis. Mais entre-temps, nous allons écouter une chanson de I Am. I Am, je suis. Je viens de la voir. J'avais pas pensé, j'avais choisi ça, mais I Am, c'est la fin du monde.
Rêve de compassion et de bourgeon renaissant sur ses branches. Les mêmes qu'on laissera crever un soir de décembre dans le silence. Juste un bout de carton pour s'étendre, tout le monde a ses chances. De quelle planète vient celui qui a dit ça? Un homme politique, je crois, live de Bora Bora. Pendant que les foyers subissent façon Tora Tora. Mais bon, c'est bien trop bas, alors forcément ils nous voient pas. Paroles, 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 ils ont promis monde et merveilles. Mais les merveilles se sont envolées. Il reste que démons, mais c'est raide à grimper. Et au sommet, il y a que des démons en costume cendré, en bas c'est les jeux du cirque César avait, parce qu'on va se faire bouffer par des fauves qu'ils ont dressés. On note une sévère chute de sang sur la map, une montée d'air noir, un jour on paiera cher pour une bouffée d'air pur. Ici c'est chacun sa culture, chacun son racisme, seulement sur fond blanc c'est le noir qui reste la meilleure cible. Les temps changent c'est sûr, mais il y a toujours des irascibles. Ils ont bonjour d'Henri Daron, Mourmec et Zinedine. À l'heure où les gens dînent, il y en a encore trop qui cherchent, pour eux pas de 8 pièces, ils crèchent au parking, tout le monde s'en indigne. Ça dévalue le quartier, ça effraie Mémé. Et on sait bien ce que Mémé va voter. Du haut de leur tour de vis, droite comme la tour de Pise, jumelles sur le pif, ils fractionnent, divisent à leur guise. On s'étonne ensuite que ça finisse en fratricide. Car tout ce qui compte, c'est de gonfler les commandes de missiles. Vive la démocratie, celle qui brandit la matraque face à des pacifistes. T'es pas d'accord, on te frappe, multirécidiviste. C'est jamais cela qu'on traque. Ils vivent en haut des listes et mettent leur tronche sur les tracts. Ce monde agonise, vu ce qu'on y fait, c'était prévisible. Comme la goutte sur le front, dès que la merde se profile. Mais la peur atrophie les cœurs, peur de tout ce qu'on connaît pas. Alors on se barre de préjugés débiles. De partout les extrêmes dominent en prime time. À chaque fois qu'ils déciment une famille, et bien avant ces régions où sévit la famine. Image trop crue pour un bof devant sa viande trop cuite. Lui qui croyait que l'euro ferait beaucoup d'heureux. Pour les vacances faudra attendre un peu ou gagner au jeu. Mais là c'est pas trop l'heure, demain très tôt y'a le taf. Comprends ce monde pas trop vite, aucune chance qu'on le rattrape. Sur la route des principes ils ont mis des pièges à l'eau, des gilets dynamites et des scuds, y'en a un peu partout. Faudra faire gaffe aux mines, au puits d'où l'amour s'écoule. Il a beau être vif, mais à la longue, il évitera pas tout. Et un de ces quatre, il finira par tomber. J'espère qu'il y aura quelqu'un pour aider le prochain à se relever. J'espère qu'il sera pas comme le nôtre, aigri et crevé. Et j'espère surtout que celui-là essaiera pas de se faire sauter.
Tu sais, on vit dans la télé, le globe s'est fêlé. Il sert que l'on parle, mais en vrai, c'est la mêlée.
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Ce que je suis parle plus fort que ce que je dis ». Un autre exemple intéressant, moi, qui est marquant dans ma vie, moi, les auditeurs qui écoutent l'émission depuis un certain temps savent que moi, je prône le partnership amoureux ouvert. Je me vois beaucoup plus avec plusieurs femmes dans ma vie. Je crois que c'est une manière plus intelligente de vivre. Et justement, dans ce sujet, quand je rencontre une femme, souvent, elle va me dire « Ah oui, ça va », puis elle est emballée. Et puis c'est ça, elle dit « oui ». Mais quand, finalement, je rencontre une autre femme et que, finalement, je ne suis plus le seul et unique dans sa vie, oh là, c'est la fin du monde et j'ai eu droit à des colères hallucinantes. Alors qu'elle m'avait dit « oui, je suis d'accord, ça me tente de faire cette expérience ». Et donc, c'est ce genre de personnes, c'est le genre d'exemple qui ne sont pas ce qu'ils disent. Alors, pourquoi faire semblant? Moi, je dirais, c'est aussi bien de ne pas dire « oui » puis de dire exactement ce que tu es. Tu dis non, moi je veux.
Mais peut-être qu'à ce moment-là, elle le pensait vraiment. Elle vivait dans son présent, puis dans son présent, elle n'avait peut-être pas encore mis toute la dimension de son émotion, de ce qui allait accroître peut-être entre toi et elle. Et à partir de là, effectivement, le discours peut changer, ou en tout cas, ça peut amener à des changements. Parce qu'elle va se sentir plus piquée, peut-être plus attaquée. Il y en a qui resteront avec ça. Et puis, il y en a d'autres qui vont aller vers une transformation.
Mais ce sont des gens qui sont dans l'impermanence. Franchement, moi, je trouve que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on veut. Tu sais, je veux dire, si tu sais que tu veux juste un homme dans ta vie, il faut que ça soit clair. À ton âge, par exemple, ça devrait être clair. Est-ce que tu veux un enfant? Est-ce que tu veux un homme ou tu en veux plusieurs? Tu ne devrais pas t'engager dans une relation avec un peut-être.
Hey, la dynamique de
ça, c'est
de
me dire, la frivolité.
Bon, ben moi, j'aimerais ça avoir plusieurs hommes et...
Tu sais, on peut... Ouais, oui, il y a peut-être une ouverture, mais moi, ce que j'ai vécu, c'était vraiment des gens qui me disaient, oui, j'ai lu ton livre, ça m'intéresse, je veux vivre ça, puis... Tout va bien quand on est dans le théorique, mais dès qu'arrive une femme, là, je te jure que c'est une autre femme, là, c'est la fin du monde. Et aujourd'hui, je fais très attention. J'en parle, j'en discute avec la personne et j'essaie de voir si, justement, est-ce qu'elle est ce qu'elle dit ou est-ce qu'elle fait juste dire sans vraiment penser ce qu'elle dit. Parce que moi, ça me fait mal. C'est juste, on s'attache aux gens, on s'attache à gens qui rentrent dans notre vie. Puis si la personne va partir comme ça en sauvage, en arrachant une partie de mon cœur, ça fait mal. Et puis, c'est dommage que ça soit comme ça. Mais les gens devraient plutôt être un et savoir qui ils sont. Bon, dans l'adolescence, on peut dire, OK, ça va, là, tu te cherches. Début de la vie adulte, OK, peut-être. Mais à 40 ans ou à 50 ans, moi, j'ai eu une femme dans ma vie qui avait 47 ans et puis c'était la pire. Elle me disait oui, mais quand c'est venu le temps, qu'une autre femme est arrivée, je te jure que
moi, la dimension du temps ou de l'âge, tu as tel âge, tu devrais pouvoir en être là, et à tel moment, c'est évident que ça devrait être clair dans ton esprit. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Je pense que chacun grandit à sa façon et mature. Il y en a qui ne le seront jamais aussi. Il y a des hommes, des femmes qui ont une soixantaine d'années et qui sont complètement adolescents dans leur façon d'agir, dans leurs paroles. Et voilà, c'est...
Mais ces gens sont des dangers publics. Ils devraient être mis dans une cage.
C'est le temps de mettre les flashers.
J'exagère, là, mais je veux dire, moi, justement, je vais dans le sens inverse. Quand quelqu'un de 50 ans me dit « je ne sais pas qu'est-ce que je suis, je ne sais pas qu'est-ce que je fais ici », moi, je considère que cette personne est un danger public.
Mais je trouve que c'est mettre quand même dans une boîte.
Ben oui, il faut savoir juger. Moi, je ne suis pas de cette école qui dit ne jugez pas. Moi, je juge vite et bien et juste. Et c'est ça l'intelligence. Tu rencontres quelqu'un, toi, tu es coach. Ça devrait être tout de suite, tu le sais.
Oui,
la personne,
je sais.
Tac, tac, tac. Mm-hmm. Et puis, ça, c'est important, à mon avis. Parce que ces gens qui ne savent pas qui ils sont flous. Ils marchent dans n'importe quelle direction. Ils essaient des choses. Alors que moi, à 10 ans, je savais qu'est-ce que je suis. Je savais que j'étais un artiste. Et puis, j'ai une direction dans ma vie. Si je ramène ça au bonheur, par exemple, moi, c'est ce qui fait partie de mon bonheur. Je sais qui je suis. Je sais où je m'en vais. Et il n'y a jamais personne qui va m'en...
Mais c'est là où je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que ça dépend vraiment de la personne. Mm-hmm. Sa force de caractère, de son être au départ.
Oui.
Penser comme ça ou faire comme ça, c'est sûr que dans ces cas-là, on peut te mettre comme une exception.
Bien sûr que je suis une exception.
T'es sûr.
Je l'ai mentionné au début, les gens n'ont pas d'être sur cette planète, à mon avis. Ils n'ont pas d'âme non plus. Le concept de l'âme est une invention de la religion qui amène la dualité. Mm-hmm. Si tu crois que tu as une âme séparée de ton corps, tu dis que tu es deux. C'est nul, ça. Moi, j'ai un être. L'être est plus moi-même que moi-même. L'être est immanent. Il n'y a pas de dualité dans l'être. Donc, tu vois que moi, je peux être dans la permanence parce que j'ai un être.
Enfin, pour revenir à ton commentaire du partnership amoureux, c'est ça, il y a des gens qui sont encore un enfant, même adulte. Et puis, tu as vu un enfant, tu lui donnes un truc, un jouet, puis tu dis, quand les autres enfants vont venir, là, oublie pas, hein, tu partages ton jouet avec les autres. Hein. Et puis, il dit oui, bien sûr, bien sûr. Puis, quand le moment est venu, le moment crucial, ben, c'est une crise, c'est pas ça. Donc, ce pattern-là reste des fois ancré longtemps, malheureusement.
Ouais. Mais tu sais, moi, je parlais des femmes parce que c'est mon expérience, mais je suis certain que c'est la même chose avec les hommes. Là.
Mais dans le cas des femmes, si je fais référence à ce que Jackie Lacourcière a déjà mentionné, pour les femmes dans la société, d'après ce que si je me souviens bien, puis là, je paraphrase, là, mais L'estime de soi est encore fragile dans l'ensemble. Et puis, donc, quand cette estime est liée avec des valeurs traditionnelles, tu vas toujours avoir un conflit ou des risques importants. T'sais. Donc, quand on parle de l'être, et puis d'arriver à un point où est-ce qu'on est si solide qu'on peut être confortable avec plusieurs partenaires, ben là, là, c'est une autre paire de manches. La réalité vient de changer aussi. C'est plus...
Je pense que c'est une manière de vivre du futur. Je crois que c'est comme ça qu'on devrait vivre parce qu'on vit présentement en société. La société est trop, trop grande et on est des numéros. Donc, surtout en Amérique du Nord, on est seul. La majorité des gens qui meurent vont se suicider parce qu'ils sont totalement déprimés. Et ça fait partie de la vie ici en Amérique du Nord. Alors que je crois que si on revenait plutôt vers la communauté, une communauté, ça n'a pas beaucoup de gens. Les gens se connaissent tous par leur nom. Et puis moi, la communauté que je vois, c'est des liens très solides, puisque, par exemple, moi, j'aurais trois compagnes, mes trois compagnes auraient trois compagnons qui sont mes amis aussi. On forme une communauté vraiment tissée, solide, et là, on peut s'entraider. Et puis si on regarde plus dans le passé de l'humanité, c'était comme ça qu'on vivait au début. Et c'est comme ça que vivent sur la Terre les tribus qu'on dit primitives. Ils vivent en tribus, en communauté, ils partagent la sexualité, les enfants, la nourriture, les biens. Et moi, je trouve ça beau. On dit qu'ils sont primitifs, mais ces gens-là, en général, sont beaucoup plus heureux que nous dans notre société.
On est au-delà du lâcher-prise. Chacun fait ce qu'il veut, quand il veut. Ça serait un peu, toi, la méthode qui serait la meilleure pour toi. C'est-à-dire, justement, puisqu'on en parle, du lâcher-prise, c'est vraiment tendance. Tu parlais de mode tout à l'heure, Robert. C'est ça. Le mode du lâcher-prise... est vraiment, vraiment dans notre vie de tous les jours.
Dans la tienne, pas dans la mienne. Moi, je suis dans le laisser-être.
Non, non, je parle de...
Mais t'as dit on.
Tu dis, ouais, mais parce que tu disais tout à l'heure, on regarde autour de soi. Donc, alors, si moi, je regarde autour de moi, aujourd'hui, de quoi on parle le plus pour pouvoir accéder justement à un certain bonheur, une certaine satisfaction, d'être confortable, la zone de confort, comme on dit. Le premier mot, souviens, qui vient, c'est lâcher prise.
OK. Alors, en contraste avec ça, j'aimerais savoir votre opinion sur quelle place prend quand on parle d'ambition? Quelle place prend l'ambition dans tout ce qu'on parle en ce moment? Parce qu'on parle de lâcher prise, on parle de partager tout, on parle d'être. Et c'est quoi l'ambition pour vous?
Ben moi, j'en ai pas. Okay. Parce que quand tu t'es donné un être, tu n'as plus d'ambition, tu n'attends rien. Moi, je n'ai pas d'espoir. Je suis un désespéré, bienheureux.
C'est triste quand tu dis ça.
Mais non, non, parce que les gens aujourd'hui ne semblent pas comprendre le vrai sens. Moi, quand on parle d'espoir, je pense au futur. Je me projette dans le futur. Moi, j'espère rien. Je suis ici et maintenant. L'espoir, tout espoir est vain. Moi, je préfère un désespéré qui a arrêté de se projeter dans le futur, qui pense que l'humanité va changer, que ça. Non, moi, je ne suis pas dans les si. Je suis dans le ici maintenant. Je suis un désespéré bienheureux. Moi, je suis extrêmement heureux. Mais je suis désespéré dans le sens que je n'espère pas parce que je suis dans le ici maintenant.
Moi, je suis d'accord avec toi pour la juste petite parenthèse. Je suis d'accord juste le fait de ne pas être en attente. Ouvre beaucoup, beaucoup de portes.
Ouais, tu parlais du si, être, t'es pas dans le si.
Ben, la même chose que le laisser aller pour ça. Moi, je me laisse pas aller parce que le laisser aller, ça fait partie de la philosophie du yoga qui est très à la mode aujourd'hui. C'est se détacher du mental, se détacher du monde, se détacher du sexe, se détacher de l'argent. Et ça, c'est ce que les gens ont compris de Bouddha. Mm-hmm. Moi, je suis le contraire de ça. Je suis un bogey. Je m'attache. Je prends tout. Donc, le laisser aller, pour moi, ça, c'est très mauvais. Tu te laisses aller, tu sais.
Non, pas le laisser aller, le lâcher prise. C'est-à-dire, si moi, j'ai décidé de vivre de cette façon, moi, par exemple, j'ai décidé de vivre avec plusieurs hommes, il y a un lâcher prise quelque part à faire.
Oui, le lâcher prise, c'est un peu plus
précis.
C'est juste
à ce niveau-là où je voulais...
C'est de faire confiance.
Faire la petite note.
C'est d'avoir des gens dans ta vie que tu peux tout dire. Parce que de toute façon, on sait bien que la majorité des hommes sont des menteurs, qu'ils vont aller voir ailleurs. Donc, une femme qui fait semblant, qui veut pas savoir ce que l'homme fait quand il part, c'est elle la pire parce qu'il va avoir une deuxième vie, puis il va avoir peut-être d'autres femmes, il lui dira jamais.
Alors que du crédit, ils sont pas tous comme ça, elles ne sont pas toutes comme ça non plus.
La majorité.
Je le mets au masculin et au féminin.
La majorité des gens sont comme ça, à mon avis. Il y a toujours des exceptions et j'aime ce fait qu'il y ait des exceptions. Moi, ma compagne, elle sait que je vais lui dire la vérité. Que s'il y a une autre femme qui vient chez moi, il y a sa photo chez moi, je lui dis « Regarde, ça, c'est ma compagne. » Et je vais lui dire que tu es venu ce soir. Toi, est-ce que tu vas le dire à ton compagnon? Souvent, elle me dit non. Tu vois, cette femme-là n'a pas de crédit à mes yeux parce qu'elle vit dans le mensonge. Et après ça, tu vois des photos d'elle avec son compagnon sur Facebook, puis ils sont heureux. Mais c'est des menteurs. C'est une illusion. Alors que moi, c'est la vérité. Donc, je suis plus que ce que je dis. Puis plus j'avance dans ma vie, plus moins je dis des choses grosses. T'sais. Bon, ça, c'est une émission de radio. C'est sûr qu'on dit des choses, mais dans ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup. Je suis très simple et je réfléchis beaucoup plus que je parle.
OK.
Bon. C'est déjà tout, mais on aurait bien continué cette émission.
Ouais.
Alors, on va vous laisser une chanson qui s'appelle « L'heureux mix ». Je ne sais pas de qui exactement. Alors, j'espère que vous allez la trouver belle. Et je voudrais remercier Radio H2O et Radio Centre-Ville, ainsi que le mouvement jovialiste, de participer à l'essor de notre émission. Je vous invite à venir écouter nos autres émissions sur Propos sur le bonheur. Et même si vous voulez réécouter la chronique d'Angélique, elle sera sur le site internet.
.com.
Propos sur le bonheur.com. Donc, bonne semaine à tous.
Bye bye.
Bye.
Cette chanson, la chanson de Prévert. Ce soir, mon petit garçon, il y a de la rumba dans l'air. Je suis amoureux de tout un pensionnat. Il y a des allumettes au fond de tes yeux. Pour une amourette qui passait par là, j'ai perdu la tête, je vais faire du feu. Could you be love?
Could you be love?
Avec Denise. Temps des cerises. Entre le jazz et la java, dansez sur moi Lily Marlène, Jimmy Jazz, Malavida. J'en ai vu pousser des rengaines. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant. Sarah, Lily, Lola Rastaquer, je chante pour passer le temps.
Could you be love?
Could you be love? Avec Denise. Le soleil est beau.
Le soleil est beau.
Le temps des cerises. 19 degrés au chaud, on my radio. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau. Manque de classe with my pince à vélo. Porque te basse comme un petit coquelicot. Daddy was a bank robber. Mon oncle infâme, bricoleur. Allons voir si la rose pull up to the bumper. Planète claire à Spinker.
Could you be love?
Could you be love? Avec Denise. Le soleil est beau.
Le soleil est beau.
Le temps des cerises. J'ai 10 ans dans la gare de Nantes. Ma petite est comme l'eau. Avec le temps, les passantes, faut pas que je loupe mon vélo. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant. Sarah, Lily, Lola Rastaquer, je chante pour passer le temps.